d'éclairage dans une cave.
Non, mais je voulais dire, c'est peut-être ça fait peut-être un peu léger, non?
Ah non.
C'est intéressant.
C'est l'équivalent de 20 mètres carrés de panneaux photovoltaïques en puissance. C'est loin d'être négligeable.
Mais il y a juste un détail qui est quand même assez important, c'est que pour l'instant, on ne sait pas vivre avec l'énergie solaire. Et tout est à apprendre. Je m'explique. Il a parlé de stockage. C'est vrai qu'il faut faire du stockage. Mais il y a aussi un moyen intelligent de fonctionner.
D'utiliser au moment où c'est disponible.
C'est d'utiliser au moment où c'est disponible. Je veux dire par là, le lave-linge, par exemple. Votre lave-linge, s'il consomme de l'électricité ou s'il consomme autre chose, et que à un certain moment, vous avez de l'électricité et à d'autres moments, vous n'en avez pas, vous pouvez améliorer la rentabilité de votre système en ayant davantage de linge. Vous avez davantage de linge et comme ça, vous savez attendre un peu que les conditions climatiques soient favorables pour la production électrique. Mm-hmm. Si vous voulez, c'était un petit peu comme le congélateur. On pourrait imaginer des congélateurs. Ça n'existe pas encore. Hein. Mais on pourrait imaginer des congélateurs, je dirais, entre guillemets, intelligents. C'est-à-dire où on ait l'information 3 jours à l'avance du prix de l'électricité, puisque le prix de l'électricité à l'avenir variera en fonction des conditions climatiques, puisque la production va varier en fonction des conditions climatiques. Et donc, un congélateur, si on descend la température de tout ce qui est dedans de 10 degrés par rapport à la température habituelle, ça ne va pas changer la qualité des produits congelés. Par contre, si c'est un moment où on a de l'électricité pas chère, on baisse la température de tout ce qu'il y a dans le congélateur, et après, si les conditions d'obtention de l'électricité sont plus mauvaises, et donc que l'électricité va être plus chère, à ce moment-là, on laisse remonter la température jusqu'à la limite où elle est actuellement.
C'est une forme de stockage, finalement.
C'est une forme de stockage. C'est-à-dire qu'on stocke de l'électricité dans son congélateur.
Oui, on est capable de nous vendre des frigos qui commandent directement des yaourts au supermarché du coin, donc il n'y a pas de problème. Le frigo est capable de discuter avec le réseau pour savoir si demain, le kilowattheure sera cher ou pas cher. Ça, c'est techniquement, il n'y a aucun problème.
Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit qu'on peut stocker de l'électricité au congélateur.
Dans le frigo.
Bon. Je vais revenir hein. Pour une formation spécifique. Bon, solaire, éolien.
Il est perdu, oui.
Solaire, éolien, on a fait le tour.
Non.
Non.
Alors,
non.
L'éolien, on peut en dire encore quelque chose. Hein. C'est qu'il y a des défenseurs du paysage et puis il y a d'autres personnes qui avaient intérêt à ce que ça ne se développe pas. C'est-à-dire, entre guillemets, les marchands d'énergie qui sont derrière. Qui nous vendent l'énergie et qui ne veulent pas qu'il y ait de l'autonomie dans les territoires. Tous ces gens-là ont fait en sorte que, finalement, l'éolien terrestre ne se développe pas. L'éolien terrestre n'est presque pas développé. Hein. Ici, dans le nord, en Flandre, il n'y a presque rien.
Il
ouais.
n'y en a pas.
Il y a failli y avoir quelque chose.
Oui,
on se compte à une époque.
Oui, il y a failli.
Il y a failli. Et il y avait un opposant, il a bien fait mousser la sauce, et puis ben, finalement, il n'y a pas eu.
Oui, et donc maintenant, on commence à parler d'éolien offshore, c'est-à-dire d'installer des parcs éoliens en mer, mais à mon avis, il aurait d'abord fallu les installer sur terre, parce qu'en mer, ça coûte beaucoup plus cher à installer.
Et l'intervention, en cas de problème technique, est beaucoup moins simple.
Oui, techniquement, c'est plus difficile, et donc ça coûte davantage. Il aurait d'abord fallu installer de l'éolien à terre. Si vous voulez, l'éolien, c'est très pédagogique. On voit l'énergie. Quand ça tourne, on voit qu'il y a de l'énergie. Si vous voulez, une centrale nucléaire, c'est une boîte sombre et nulle. On voit rien. C'est une boîte, puis il y a des fils qui sortent. Une éolienne, c'est merveilleux. On voit l'énergie. Ça tourne devant nous. C'est sensationnel.
Et elle tourne en phase. C'est joli. Elle tourne tout ensemble. Oui. Un parc éolien, toutes les pales tournent ensemble, tournent.
Et je pense que les peurs d'éoliennes, elles remontent au fait qu'on avait peur des moulins au Moyen-Âge. Hein. Donc apparemment, il y en a certains qui n'ont pas trop...
Qui n'ont pas évolué depuis le Moyen-Âge.
Bah, je ne vais peut-être dire ça, mais...
Oui, en partie, ça doit être ça, Lydie, mais il n'y a pas que ça.
Et puis dans toutes les régions, quand même, ça pousse de partout. Il n'y a que chez nous. À croire qu'on n'a pas de vent.
Il n'y a pas de vent ici.
Hein.
Hein,
croire.
Ouais, il y a quand même des zones bien défini hein, pour installer des éoliennes.
Quand tu traverses la France, il y en a quand même de plus en plus. Hein.
Mais sur des zones reconnues venteuses, quoi. Hein.
Ah oui, mais
ici, c'est venteux.
Ici, c'est venteux, oui.
Non, mais là aussi, on est à la traîne en Europe par rapport à beaucoup d'autres pays dans ce domaine-là.
Notamment l'Allemagne, quoi.
L'Allemagne, encore une fois les Pays-Bas, encore une fois l'Espagne, la Belgique, Danemark.
Ah oui, Danemark, il y en a énormément. Oui. Alors, Radio Allen Spiegel 91.8 ou vous êtes sur Internet, c'est allenspiegel.be.cx dans l'émission Le Cri du Kevit. Est-ce qu'on a fait le tour des estimations de rendement pour tous nos. Le photovoltaïque, le solaire, thermique.
Pas fait géothermie.
On peut difficilement parler de rendement en géothermie. On va installer une puissance et puis on va récupérer une puissance. On va récupérer une.
Mais c'est quand même une énergie récupérée.
Mais on ne va pas pouvoir parler de rendement parce que on dispose d'une source chaude, plus ou moins profondément. Et puis avec cette source chaude, on va produire ou chauffer plus ou moins fort de l'eau ou éventuellement produire de la vapeur. Et c'est tout. Il n'y a pas de. La notion de rendement est. Il n'y a pas d'énergie entrante.
Il n'y a pas mesurée. De chiffres qui peuvent faire un attrait de cette technique.
Ah si, non mais c'est. Par exemple, actuellement, on parle d'un potentiel géothermique très intéressant dans une région de la Meuse qui est connue pour d'autres problèmes actuellement, en dessous de Bure. C'est le moment de foncer, quoi, justement.
Oui, avec tout ce qu'ils vont stocker, c'est vrai que là, on aura de l'énergie.
C'est pour ça qu'il faut éviter de stocker, pour pouvoir aller... exploiter ce potentiel géothermique qui est disponible. Il y a réellement un potentiel géothermique sous la zone de Bure.
Mais c'est pas envisageable en Nord-Pas-de-Calais, ça, la géothermie.
Si, en partie, il y a un peu de géothermie dans le Nord-Pas-de-Calais. Il y a un peu de géothermie possible dans le Nord-Pas-de-Calais.
Par exemple,
dans le sud-est de la région, c'est-à-dire le sud du département du Nord. Quoi.
Ouais, la Vénois, là.
La Vénois, oui. Par là, il est possible d'en faire.
Il y a une autre technique aussi. C'est apparemment en étude sur le bassin minier. C'est parfois d'inonder des mines pour pouvoir récupérer avec des tuyaux dans les mines la chaleur. Enfin, plus tu descends, plus c'est chaud quand même, sans avoir des températures énormes. Hein. C'est juste une petite récupération.
Faire circuler de l'eau dans les endroits où l'atmosphère est chaude.
En Belgique, on peut aussi... Enfin, moi, j'étais sur une installation de géothermie légère avec des puits canadiens.
Voilà, ce qu'on appelle le puits canadien, c'est déjà de la géothermie, en fait.
Ouais, c'est récupérer l'énergie du
stockage intersaisonnier, encore un stock.
Oui.
Bon, puis tous les élèves, normalement, en techno, maintenant, ils voient le puits canadien dans leur cahier, au collège.
Mmh. Ils ne l'appellent pas le puits provençal.
Ça dépend du...
Ça dépend de la saison.
Ça dépend du prof.
L'été, c'est un puits provençal, et l'hiver, c'est un puits canadien. C'est le même. C'est le même tuyau.
Le prof, c'est un Canadien, il dirait un puits canadien.
Avec de l'air qui circule dans le même sens, chaque fois.
Mais on en voit chez nous, ça?
Oui, ça commence à... Oui. Ah, c'est certains bricoleurs, en fait, avertis qui ont mis ça en place. C'est encore plus simple que du solaire thermique. Là, il n'y a même pas besoin d'eau, il n'y a même pas besoin de glycol, et c'est un bout de tuyau enterré, point.
Enterré autour de la maison, je pense qu'il doit faire deux fois le tour de la maison. Il prélève de l'air à l'extérieur et il vient le remettre dans la maison. Ouais. Donc, si c'est de l'air frais, ça va rafraîchir la maison.
Ouais, c'est déjà le bricoleur bien avisé, ça.
Ah ouais, et il faut une double... je pense que c'est comme les VMC. Hein.
Au moment de la construction de la maison, alors.
Oui, ça se fait en même temps que la maison. Oui, en général,
ça fouille pas les bords de la maison.
Pendant que les engins sont là, etc. Quoi,
Mais déjà, un chauffe-eau solaire dans une maison existante, installer un chauffe-eau solaire dans une maison existante, c'est pas toujours optimum. Hein. Je sais que
il faut faire avec.
Oui, mais oui. Non, mais le concevoir dès la construction de la maison,
c'est mieux. Ah oui, c'est mieux.
Moi, chez moi, j'ai mis un chauffe-eau solaire sur une maison qui datait de 1930, 25-30, entre mes capteurs et le réservoir d'eau chaude, j'ai 15 mètres de tuyaux. Et puis entre mon réservoir d'eau chaude et les lieux d'utilisation d'eau chaude, il y a encore 10 mètres de tuyaux. Quoi. Et donc il y a des pertes.
Ouais, moi j'ai la chance d'avoir pu installer ces capteurs sur le toit du garage. Donc il n'y a pratiquement pas de longueur de tuyaux. Par contre, je retrouve une longueur de tuyau.
Derrière, voilà. Tu n'as pas mis la douche dans le garage.
Voilà.
Il vaut mieux le concevoir.
C'est efficace. Moi, c'est encore plus vieille maison, mais grâce au garage, en fait, ça me sauve. Enfin, ça me sauve. Ça limite les permissions. Quoi.
On parlait de stockage, on parlait de biomasse. La biomasse, c'est encore une forme de stockage de l'énergie solaire, une fois de plus, sous forme de plantes, sous forme de bois, sous forme de charbon ou de pétrole, si c'est plus ancien.
Biomasse, ça me rappelle. C'était pas quand on a parlé de l'incinérateur, là.
Ah.
Non. On n'avait pas.
Il a été question de méthaniser les déchets biodégradables. C'est ça la biomasse. La biomasse, c'est ce qui est biodégradable, en fait. Et méthaniser les déchets biodégradables, c'est-à-dire trier très soigneusement les déchets en amont pour récupérer l'énergie sous forme de méthane lorsque la matière biodégradable se décompose, plutôt que de faire de l'électricité en brûlant tout. Ce qui est assez absurde.
Bon, on en avait bien parlé quand on... contre le projet de cet incinérateur à Arc. Là. Bon, mais ça n'a évidemment pas été retenu.
Bah non. Mais il y a quelques bus qui circulent à Lille qui fonctionnent avec du biométhane, donc du méthane produit par fermentation d'ordures ménagères. Ça existe.
Et de déchets verts.
Et de déchets,
Il me semble que la brasserie de Saint-Omer, elle est branchée sur une méthanisation aussi, au nord de Saint-Omer.
Oui, mais il y avait Bonduel, il y a maintenant 20 ans, chez Bonduel, il y avait un méthaniseur avec les déchets en fait, de lavage des légumes.
Épluchures, etc.
Oui. Mais pour dire en détail les choses, la grande installation de méthanisation, c'est celle de l'agglomération lilloise. Elle est à Sequedin et elle récupère en fait tous les déchets organiques de l'agglomération lilloise, y compris les déchets verts. C'est-à-dire qu'il y a un fonctionnement en été qui est beaucoup plus productif qu'en hiver. Et le gaz qui est produit est injecté dans le réseau de GDF Suez. Et en échange, les bus, les autobus de l'agglomération lilloise fonctionnent au gaz qui est acheté à GDF Suez. Et ça fonctionne assez bien. Il n'y a pas de problème majeur.
Radio Allen Spiegel, 91.8. On écoute un ancien.
May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you grow up to be righteous. May you grow up to be true. May you always know the truth and see the lights surrounding you. May you always be courageous. Stand upright and be strong. And may you stay forever young. May you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of changes shift. May your heart always be joyful. May your song always be sung. And may you stay forever young. 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 May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you build a ladder to the stars and climb on every rung. And may you stay forever young. May you stay forever young. May you stay forever young.
Oui, j'ai dit tout à l'heure, on écoute un ancien, c'est un peu irrespectueux, puisque Pete Seeger nous a quittés là, il y a moins d'une semaine. Il avait quand même 94 ans, et là, il interprétait une chanson de Bob Dylan, Forever Young, en 2011. Un petit hommage de Radio Link Spiegel à Pete Seeger. Radio Link Spiegel, donc, avec Outland Nature, qui anime cette émission, comme d'habitude, hein, tous les deux mois. Ce soir, donc, je vous rappelle le thème, on parle des énergies. Surtout à la maison, c'est ce qui nous intéresse, et surtout en Flandre. Mais on évoque aussi d'autres énergies qu'on peut stocker, là. L'hydrogène peut-être.
Alors l'hydrogène, c'est pas vraiment à proprement parler une énergie. L'hydrogène, c'est plutôt ce qu'on appelle un vecteur énergétique. C'est-à-dire l'hydrogène, c'est une forme de l'énergie. Et en fait, l'hydrogène, on l'utilise pas mal au niveau du stockage. Et les perspectives... Enfin, tout au moins pas en France, hein, mais en Allemagne et dans d'autres pays, on l'utilise pour le stockage. Parce qu'en fait, l'électricité, quand on produit de l'électricité, le moyen habituel de la stocker, c'est dans des batteries d'accumulateurs. Mais c'est de la chimie, c'est pas terrible sur le plan environnemental, et il faut les remplacer régulièrement. Donc, dès les années 60, à EDF, à cause des centrales nucléaires qui allaient se mettre en place, on a réalisé ce qu'on appelle des stations de pompage. Ça consiste à avoir en montagne deux barrages à deux altitudes complètement différentes. Vous avez ça par exemple à côté de Moutiers en Savoie. Vous avez à Aigueblanche un barrage à l'altitude 400 mètres. Et puis il y a le barrage de la Coche à l'altitude 1400 mètres. L'eau qui descend du barrage de la Coche peut faire tourner des turbines qui vont faire de l'électricité. Et à la sortie de l'usine électrique, l'eau est mise dans le barrage du bas. Et lorsque sur le réseau électrique, il y a trop d'électricité, on pompe l'eau du barrage du bas pour la remonter dans le barrage du haut. Ça fait un peu Shadok,
oui.
Mais ça fonctionne. Non, mais ça fonctionne. Et c'est le moyen de stockage d'électricité qui est le plus important en quantité de stockage. Pour vous donner un ordre de grandeur, actuellement en France, on a plus de 4000 mégawatts de capacité de stockage dans des couples de barrages comme ça. Parce que des couples de barrages, il y en a à Revin, dans les Ardennes, il y en a dans le Massif central, dans les Alpes, dans les Pyrénées.
En Alsace.
En Alsace aussi. Et capacité de plus de 4000 mégawatts, ça veut dire que globalement, c'est capable de stocker toute la production de Gravelines. Parce que Gravelines ne fonctionne jamais avec les 6 réacteurs en même temps, il y en a toujours en maintenance. Et donc, ça veut dire que ces couples de barrages répartis sur toute la France sont capables de stocker toute la puissance fournie par Gravelines. Et à l'inverse, ils sont capables de produire une puissance équivalente à celle de Gravelines en cas de besoin. Donc ça, c'est le stockage dans les couples de barrages. C'est ce qu'on appelle les STEP. Station de transfert d'énergie par pompage. Mais ici, dans les Flandres, on n'a pas de dénivelé suffisant pour faire les shadocks avec deux barrages et remonter l'eau quand on a trop d'électricité. Et donc, dans les pays où il n'y a pas de relief suffisant, à ce moment-là, il y a une autre méthode qui, pour l'instant, en France, relève de la recherche et n'est pas mise en œuvre effectivement, c'est utiliser l'hydrogène. Quand on a trop d'électricité, on électrolyse de l'eau, cette électrolyse, avec du courant continu, cette électrolyse donne de l'hydrogène et de l'oxygène, et l'hydrogène, on le stocke dans des bouteilles, ou bien on l'utilise en l'injectant dans le réseau de gaz. C'est-à-dire que ce qui pourrait se faire, par exemple, à la place de la centrale de Gravelines, là, et, parce que là, on a un nœud électrique intéressant, on aurait dans la région différentes sources d'énergie renouvelable, d'électricité renouvelable, et par très beau temps, par exemple, tout produit, et s'il y a du vent, on a énormément d'électricité. À ce moment-là, cette électricité, par le réseau EDF, est redirigée sur Gravelines. Et là, à Gravelines, il y aurait une usine de fabrication d'hydrogène. Cette fabrication d'hydrogène aboutirait dans les tuyaux de GDF Suez et serait distribuée donc dans la France à la place du gaz naturel. Alors, est-ce que ça peut marcher? Oui. Est-ce que c'est dangereux? Pas plus que d'autres méthodes. Pour vous donner un exemple...
Quand même l'hydrogène.
L'hydrogène, on a le souvenir du dirigeable Hindenburg qui avait cramé. Mais ma mère et ma grand-mère utilisaient une cuisinière au gaz de ville sur lequel faisaient leur cuisine. Ce gaz de ville contenait 50% d'hydrogène. Et ma mère et ma grand-mère n'ont jamais explosé. Elles avaient d'autres procédés pour s'envoyer en l'air.
Oui, bien sûr.
Et donc, l'hydrogène, si vous voulez, c'est une piste très importante. Et GDF Suez, ils s'en sont rendus compte. Ce qui fait qu'ils ont expérimenté, ici à Dunkerque, l'injection d'hydrogène dans les autobus à gaz naturel. Il y a eu deux autobus qui ont été équipés comme ça pour finalement avoir un mélange de gaz naturel et d'hydrogène et qui ont roulé pendant 2 ans. Ils étaient bourrés d'instruments de mesure parce qu'il s'agissait, c'était des prototypes, hein, c'était pour voir comment c'est possible. Et effectivement, c'est possible, ça a bien marché. Toujours GDF Suez, il y a un autre projet, ça doit être dans la banlieue de Dunkerque, je ne sais plus quelle commune exactement, mais il y a un lotissement qui va être alimenté avec du gaz naturel mélangé à de l'hydrogène pour les besoins domestiques, c'est-à-dire pour les chaudières de chauffage, pour les gazinières, enfin, etc. Capelle-la-Grande. Je pense que c'est à Capelle-la-Grande que ce lotissement va être construit. Enfin, il est sur le point d'être bâti. Et là aussi, c'est une expérimentation pour voir s'il est possible d'avoir une injection d'hydrogène dans le réseau de gaz naturel et qu'après, on utilise ce gaz-là comme le gaz naturel.
À l'époque de ce qu'on appelait le gaz de ville, début 20e siècle, on fabriquait du gaz à partir de charbon, de bois ou d'un petit peu n'importe quoi. On faisait des mélanges très 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 variables et puis on adaptait. On avait des variations de pouvoir calorifique qui étaient relativement faibles en adaptant les mélanges en fait, en fonction de ce dont on disposait.
Mais il y avait pas mal d'hydrogène.
Donc il n'y a pas de problème pour mélanger de l'hydrogène avec du gaz naturel, par exemple, ou avec d'autres gaz qui seraient produits de méthanisation, par exemple, ou autre.
Pour vous donner juste un exemple à propos du risque, parce qu'en fait, on imagine que l'hydrogène, ça crame. Oui, ça crame. Ça explose. Mais un exemple. Yannick, Florence et leurs 3 enfants, un beau dimanche de printemps, ils vivent dans l'agglomération lilloise et ils montent dans leur petite voiture et ils s'en vont à Malo-les-Bains pour aller à la plage, manger une frite, jouer dans l'eau. Et il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils ont une petite voiture à essence. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que en dessous de leurs enfants, dans leur voiture, ils transportent l'équivalent de 50 ou 60 cocktails Molotov. Il n'y a aucun terroriste qui prendrait des risques comme ça. Si, non mais c'est vrai quoi. Alors si vous voulez, on peut prendre un exemple plus conventionnel. Ils transportent l'équivalent de deux ou trois lance-flammes.
Oui. Mais... conventionnel, lance-flammes.
Oui, non mais si vous voulez, c'est complètement habitué. On fait ça, j'irai tous les jours. Alors qu'en fait, c'est quand même énorme, quoi. Si vous voulez, pour dire les choses autrement, lorsque dans un accident de bagnole, il y a une bagnole qui commence à cramer et que l'essence s'enflamme, les pompiers et tous les secouristes ne peuvent plus rien faire. Ça fait des merguez grillées, c'est tout. Terminé. Hein. Donc, si vous voulez, des risques, en fait, on en court tous les jours sans s'en rendre compte. Et donc, l'hydrogène, ce sera une autre forme de risque. Mais bon.
Mais l'avantage, une fois qu'elle a fini d'exploser, c'est fini. C'est propre, l'explosion d'hydrogène. Ça fabrique de l'eau, c'est tout.
Oui. C'est vrai.
Même pas de CO2.
Regarde, un problème.
On va tomber dans le noir,
c'est
là.
Moins propre, hein. Un problème à Fukushima, c'est moins propre.
Oui, c'est à ça que je pensais, entre autres.
Bon.
Donc l'hydrogène.
Et puis quand ça finit de péter, Fukushima, ça continue à polluer.
Oui.
L'hydrogène, quand elle a fini, on n'en parle plus.
Et alors, si vous voulez, l'hydrogène, ça permet aussi, j'allais dire de rêver, mais ça permet d'anticiper 50 ans ou 100 ans. Dans 50 ans ou dans 100 ans, il n'y aura plus de gaz naturel. Mmh. Ok, ça sera terminé. Eh bien, qu'est-ce qu'on aura comme gaz? On pourra faire avec le soleil, faire de l'électricité, électrolyser de l'eau, fabriquer de l'hydrogène et l'injecter dans les réseaux de gaz qui existent actuellement.
Oui, mais jusqu'à présent, c'est un mélange. Ah ben, donc là, ça fera uniquement d'hydrogène.
On commence à expérimenter. Mm-hmm. Ah non, mais alors, bon, je peux vous donner un autre exemple. À Lille, au début des années 2000, il y a une entreprise qui s'appelait H2 Développement.
Oui, ça suit bien, oui, pour l'hydrogène H2.
Tout à fait. Oui. Et c'est une entreprise qui a réalisé la transformation d'un véhicule à essence en véhicule à hydrogène. Mmh. C'est-à-dire que la transformation qui a été faite, c'est le même genre que ce que l'on fait pour transformer un véhicule à essence et le passer au GPL. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a eu de la tuyauterie, des réservoirs, une tuyauterie, etc., un injecteur et des contrôles. Et ça roulait très bien. Mmh. C'était un véhicule Peugeot, les bouteilles de gaz étaient à l'arrière, les bouteilles d'hydrogène étaient à l'arrière, et ça roulait très bien. Le seul problème qu'il y a eu, c'est un problème réglementaire. C'est-à-dire qu'au début, c'était des plaques en WW, hein, les plaques de garagiste, mais bon, on ne peut pas rouler longtemps avec des plaques comme ça sur le même véhicule, c'est pas fait pour. Et donc ils ont dû passer au service des mines, puisque c'est le service des mines qui, sur les cartes grises, indique qui homologue le véhicule et qui, sur les cartes grises, indique la source d'énergie, soit essence, soit gasoil, etc. Et le service des mines, évidemment, n'avait jamais rencontré un tel problème. Et donc, il a contacté le fabricant automobile, lequel fabricant a refusé l'autorisation de faire les essais du véhicule en vraie grandeur sur les routes. Voilà, et l'expérience s'est arrêtée là. L'entreprise H2 Développement a fait faillite. Mais ça a roulé. Ça a existé, ici, à Lille.
Ça ne rejoint pas un peu la polémique des moteurs à eau, là? Mais dans les moteurs à eau, c'est en fait pour tirer l'hydrogène, si j'ai compris, non? Pas une mini-électrolyse qui fait qu'on sort l'hydrogène et qu'on
rejoint ça. C'est pas une source, l'eau, c'est le résidu de la combustion de l'hydrogène. On va rien tirer de l'eau si on n'apporte pas de l'énergie par un autre moyen. Il faudra, oui, tu peux électrolyser. Pour électrolyser, il faut une source électrique.
Énergie, ouais.
Et pour l'instant, les bureaux d'études qui ont fait de l'expérimentation des moteurs à eau n'ont pas réussi à montrer que ça avait un rendement suffisant pour que ça soit intéressant.
La filière bois, on n'a pas évoqué.
Filière bois, ouais. Bah ça, la filière bois, c'est actuellement environ 7,4 millions de ménages en France qui se chauffent au bois. Tout le temps, ou de temps en temps pour s'amuser, le week-end uniquement, ouais. Ou etc. Ça fait globalement 30% de la population. C'est énorme quand on pense que la France est quand même de plus en plus urbaine. Sur ces 30%, il y en a la moitié pour qui le bois, c'est le moyen de chauffage principal. Donc le système, la chaudière ou le poêle pour un appartement plus petit qui va chauffer et qui va garantir le chauffage pendant tout l'hiver du logement. Quelques chiffres encore, la consommation de ces gens qui chauffent leur logement au bois, c'est en moyenne 7,5 stères de bois par an. Sachant que le stère de bois, ça signifie pas la même chose partout, que c'est très très variable. Par exemple,
ça dépend de la qualité du bois. Oui,
oui, mais enfin bon, un stère de bois,
c'est un mètre cube.
La réglementation, c'est un mètre cube occupé par un tas de bois, les morceaux de bois faisant moins de 20 cm de diamètre et faisant un mètre de long.
Oui.
Alors si on s'amuse à ranger le tas de bois sur un mètre cube, on aura le stère de bois en morceaux d'un mètre. Si on s'amuse à couper les morceaux de bois, simplement en morceaux de 50 cm, le tas de bois,
il fera
plus que 0,8 mètre cube.
Uh-huh.
Donc ça sera plus un stère, mais on l'appellera un stère quand même parce qu'au départ, il faisait un stère. Et si on s'amuse encore à continuer à le couper, si on le met en 33 cm, donc on coupe les bûches en 3 morceaux au lieu de 2, là on passe en dessous, on passe à 0,7 m3. Donc en fait, le stère, ce n'est pas une unité légale. Officiellement, on n'a pas le droit de vendre du bois en stère. Il faut afficher soit un volume de vrai bois, donc déduire le volume des vitres qui sont dans le tas, ou il faut parler en masse, en kilos.
Oui.
Bon, mais c'est une unité qui est utilisée partout.
Ça dépend de l'essence. Hein.
Ensuite, le pouvoir calorifique du bois, il dépend énormément du type de bois et surtout de son séchage. Un bon bois de chauffage, c'est un bois qui ne contient pas plus de 20% d'humidité. Mm. Alors que le bois, juste au moment de l'abattage, peut monter à plus de 50% d'humidité. Donc la durée de séchage, le mode de séchage joue énormément dans la qualité du bois. Ordre de grandeur, l'équivalent, il faut en gros 2 kilos de bois pour faire l'équivalent d'un litre ou d'un kilo de nos combustibles habituels. Donc le litre de fuel, il faudra le remplacer par 2 kilos de bois, ordre de grandeur, pour un chêne ou un hêtre sec, c'est-à-dire la bonne qualité de bois. Un truc qui est relativement intéressant également aussi, c'est que sur la quantité de combustible bois qui est utilisé en France, il faut se rendre compte qu'il y en a en gros, et principalement sur la partie bois-bûche, il y en a 50% qui passent par ce qu'on appellerait de l'économie non marchande. Donc ça veut dire que ce n'est pas à un moment ou à un autre converti en dollars. C'est soit des gens qui produisent eux-mêmes, hein, qui ont leur petite parcelle de forêt, qui vont couper leur bois tous les ans, qu'ils le mettent à sécher, qu'ils l'utilisent. Soit c'est de la récupération tous azimuts de bois d'élagage, de récupération de palettes. Selon l'ADEME, ça représenterait 4 à 5% du bois brûlé en France chaque année, la récupération d'emballage en général.
C'est pas une qualité de bois ultra.
C'est une mauvaise qualité, mais c'est un bois qui est obtenu gratuitement. Et donc ça représente... Donc ça passe en dehors de l'économie marchande. Et puis bon, il ne faut pas oublier non plus la partie complètement inconnue au niveau pourcentage qui est faite sous forme de travail au noir, quoi, donc de vente et de...
Mais on peut suivre au niveau bois, je veux dire, l'abattage des arbres, tout ça, même si... Les forêts ont tendance à...
Oui, actuellement, la gestion des forêts demande à ce que... essaye de faire pression actuellement sur les assurances pour qu'en cas de sinistre, les assurances réclament une facture du combustible aux gens qui est chauffé au bois. Voilà où on en est. Donc, y a une peur à la fois de l'autoproduction et on se couvre derrière la notion de sécurité et puis de travail au noir et puis de
l'autoproduction, en quoi on peut en avoir peur? Je comprends pas.
Au niveau de l'administration, tout ça, c'est des choses qui passent qui passent pas par l'économie marchande et qui ne sont pas taxées, qui y a pas de TVA sur il y a pas d'impôt, il y a pas de l'autoproduction comme l'autoconstruction, c'est assez dérangeant pour les pouvoirs en général. On parlait tout à l'heure d'une installation solaire, La personne qui achète un kit solaire pré-apposé avec un artisan qui vient lui poser, elle va reverser en gros un quart de la facture sous forme d'impôt entre la TVA, les taxes tous azimuts. Alors que si elle bricole elle-même, si elle auto-construit son système, la partie taxe va représenter très très peu. C'est là-dessus que le pouvoir en place ou l'administration,
oui,
bref, on l'appelle comme on veut, a peur de l'autoconsommation.
La peur, c'est...
Oui, c'est pas... Non,
c'est l'économie.
C'est pas la peur de l'utilisateur. C'est pas la peur de l'utilisateur. Non,
voilà.
Globalement, sur les... Je parlais tout à l'heure des 7,4 millions de foyers qui se chauffent au bois. Il y a eu une grosse baisse entre les années 90 et puis le tout début des années 2000. Parce que ça représentait... En fait, le chauffage au bois, ça représentait d'abord un chauffage qui paraissait vieux, désuet, essentiellement rural, avec des appareils qui fonctionnaient mal, dont il fallait s'occuper en permanence. Et puis bah, les systèmes se sont améliorés, hein, les techniques, aussi bien les poêles que les chaudières de chauffage central à bûche, et puis depuis quelques années à granulés, donc qui ont tous les automatismes qu'ont des chaudières type gaz ou fuel, avec un combustible qui est vendu moins cher, intéresse le public. Et donc depuis le début des années 2000, il y a une remontée de la consommation de bois et de l'utilisation de la filière bois dans le chauffage. Globalement, il se vend 220 000 poêles et chaudières par an en France. C'est une forte progression. La quasi-totalité des appareils ont moins de 10 ans aujourd'hui, c'est surprenant. Et plus du quart à moins de 5 ans. Donc appareil récent avec des rendements qui se sont énormément améliorés, avec une efficacité, donc un meilleur rendement et puis une moindre pollution également, parce qu'il faut savoir qu'un poêle à bois fonctionnant mal, c'est relativement mauvais au point de vue production de déchets, de poussière, de monoxyde de carbone éventuellement aussi, donc oui. avec le sous-entendu de sécurité sur ce point-là. Les techniques ont bien évolué ces 10 dernières années, donc la consommation de bois augmentant et le rendement des appareils augmentant en même temps, on peut se dire qu'il y a une quantité de chaleur produite par la filière bois qui augmente encore plus, quand les deux jouent dans le même sens. Faut pas oublier qu'en France, on est bien placé, le Nord-Pas-de-Calais moins, mais la France est bien placée pour l'utilisation de la filière bois. Hein. La forêt, c'est un tiers du territoire national. Ça représente une quantité d'emplois qui est pas négligeable. On parle de 4 à 500 000 emplois. Et c'est du local, systématiquement. C'est dispersé, c'est réparti dans le territoire. Quoi d'autre encore
Le granulé.
Oui, le granulé.
Alors, juste un détail sur la filière bois. C'est que actuellement dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un nombre qui est quand même assez important à connaître. Actuellement, dans le Nord-Pas-de-Calais, tout le bois qui est produit, il y en a 80% qui est exporté, notamment en Chine. C'est-à-dire que les containers qui arrivent de Chine avec des objets manufacturés et que nous, on achète, ils ne repartent pas à vide, ils repartent éventuellement avec des billes de bois pour là-bas faire des meubles, faire des tas de choses qui nous revendent après. Donc il y a 80% du bois produit dans le Nord-Pas-de-Calais qui est exporté.
Mais la production dans le Nord-Pas-de-Calais de bois ne doit pas être très élevée.
Attends, à l'inverse, tout le bois qu'on utilise dans le Nord-Pas-de-Calais, que ça soit en charpente, que ça soit en construction, etc., il y en a 80% qui est importé. C'est-à-dire qu'il y a une absurdité assez phénoménale. Alors il y a un problème de qualité des bois. C'est-à-dire que pour tout ce qui est charpente des maisons, bon, c'est du résineux. Or, dans le Nord-Pas-de-Calais, on ne fait pas de résineux, pratiquement.
À part le tuyat autour des pavillons.
Non, résineux, parce que ça pousse très vite, mais dans le Nord, on n'en fait pas.
Hein. Non, les résineux, ils viennent des pays nordiques, si vous voulez. Hein. Mais donc, au niveau de la filière bois, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a quand même un problème assez considérable. C'est-à-dire qu'il y a une quantité de transport qui est assez absurde, puisqu'il y a du bois qui est produit ici, qui est exporté, et puis nous, pour utiliser du bois, on en importe. Quoi.
C'est, oui, mais les quantités ne doivent pas être les mêmes. On en produit quand même peu dans le Nord-Pas-de-Calais de bois.
Oui.
Alors 80% de peu, mais dans l'autre sens, peut-être que...
Non, mais c'est surtout en Flandre qu'on en produit peu.
Ouais, parce que il n'y en a plus en
ici,
Flandre.
Ouais. Pour la Flandre française et belge, il y a une forêt, il y a un massif forestier, c'est la forêt de Nieppe. Ouais. Il n'y en a pas deux, hein. Flandre française et belge. Ouais. Il y a un massif forestier. Par contre, bon, du côté du Boulonnais et de la Vénois, il y en a davantage quand même. Heureusement.
Le bois, si on parle chauffage, le bois, ça représente 79% de l'énergie renouvelable utilisée dans le chauffage. Et donc, les 20% restants, bah, c'est du solaire photovoltaïque, c'est du solaire thermique. Et puis, bah, c'est quasiment tout. Hein. Donc, oui, si on veut se chauffer en renouvelable, il y a deux solutions, c'est du solaire.
Oui,
pour
le paragraphe chauffage. Oui.
Et le chauffage, c'est un poste énorme au point de vue énergétique. Ici, on chauffe au minimum 6 mois par an, ouais. Les locaux. Donc,
L'an dernier, bien plus.
Oui, mais cette année, beaucoup moins.
Cette année, bien moins.
Bien moins. C'est bien parti, cette année. Alors, tu avais lancé un mot, là, granulé.
Oui, ben le granulé, ça fait partie de l'amélioration des techniques de combustion. Une chaudière ou un poêle à granulé, on y met une réserve de granulé, éventuellement on la relie avec un petit système d'aspiration à une réserve qui sera dans un bâtiment annexe, et puis après ça se débrouille tout seul, à la limite, pendant tout l'hiver. Ça permet d'avoir le confort de ne s'occuper de rien du début à la fin de la saison de chauffe. Maintenant, ce granulé, techniquement dans le système de combustion, il a un pouvoir calorifique qui est bien supérieur à celui du bois bûche, parce que c'est un bois qui est très sec, hein, c'est un résidu type bois haché, type sciure, etc., qui est compressé, et il est relativement sec. Maintenant, pour fabriquer ce produit, on aura aussi dépensé une quantité d'énergie qui n'est pas négligeable.
Oui, c'était un résidu. Au début des poêles granulés, c'était effectivement des sciures et des chutes de fabrication qui étaient utilisées pour ça. Maintenant, ça a bien changé, vu que la consommation
grave,
a augmenté énormément. Maintenant, il y a des usines où on entre du bois sous n'importe quelle forme et où on sort des granulés.
On entre des billes de sapin et on sort du granulé.
Vous écoutez Radio Allen Spiegel, vous avez bien raison. Alors, vous êtes bien au chaud, ouais, on a parlé beaucoup de chauffage, et vous écoutez ça. Thank you. Michel Petrucciani, sur l'album Marvelous de 1994. Un morceau intitulé Manhattan, donc vous étiez bien au chaud à écouter du jazz. Oui, même sur Radio Allen Spiegel, on écoute du jazz. La voix de la Flandre passe du jazz. Dans le cri du Kévit, donc l'émission qui va commencer à prendre fin, nous en étions sur les énergies. On va parler des applications à la maison, mais à la maison proprement dite, c'est-à-dire au niveau de sa construction, avec ce qu'on évoque maintenant, les fameuses maisons énergie positive ou
basse consommation,
les fameuses.
Oui. Alors, à ce sujet-là, il y a...
Ce qu'on voit de plus en plus, d'ailleurs, en argument de vente. Hein.
Mm-hmm. Oui, il y a un petit problème. C'est que un bâtiment énergie positive, par exemple, c'est un bâtiment qui est très bien isolé. C'est un bâtiment où les flux d'air sont contrôlés. L'air frais qui rentre dans la maison pour les habitants qui y vivent est réchauffé par l'air chaud qu'on expulse. Je veux dire, c'est vraiment du top niveau pour ce qui est de la technologie de construction. C'est pas du tout évident, c'est pas du tout à la portée du bricoleur. Et quand on a mis des gens vivre dans des maisons comme ça, on s'est rendu compte qu'il y avait un phénomène assez curieux qui se passait, c'est que dans la mesure où le chauffage ne coûtait rien, bah, les gens avaient tendance à s'en foutre pas mal, et donc ils laissaient les portes ouvertes. Et à partir de ce moment-là, la maison n'est plus du tout à énergie positive ou en basse consommation. C'est-à-dire que la maison, l'appellation qu'on utilise, maison à énergie positive ou maison à basse consommation, c'est faux. Ce qu'il faudrait dire, c'est maison qui peut être à basse consommation ou qui peut être à énergie positive si on l'utilise correctement.
Voilà. Sous-entendu, si vous, monsieur, dame, l'utilisez comme il faut.
Tout à fait. Parce qu'autrement, si on a l'habitude d'avoir les gosses qui laissent la porte ouverte lorsqu'ils sortent au jardin, eh ben, ça ne va pas changer. Ce n'est pas parce qu'on va avoir une maison à basse consommation. Au contraire, les gens auront tendance à se dire bon, « une maison à basse consommation, elle ne consomme rien, donc on peut laisser les portes ouvertes. »
Et laisser couler l'eau pendant que je me brosse les dents.
C'est pareil.
Voilà. Enfin,
oui, mais à plus grande échelle. Quoi. Donc là, il y a un peu... un problème, on va dire, d'appellation. C'est-à-dire que l'expression « maison basse consommation » n'a pas de sens en soi. Parce que ce n'est pas la maison qui est à basse consommation, c'est l'objet maison et
l'utilisation qu'on en fait.
Et la façon d'y vivre qui seront à basse consommation ou non.
Donc ça veut dire qu'il faut que les gens qui y vivent ont une réflexion, enfin au moment, plutôt au moment de l'achat.
Et au moins une certaine conscience de ce que c'est que l'énergie, de ce que c'est que garder l'énergie, de faire attention à ne pas en perdre. Quoi. C'est un vrai problème.
Donc il faut un petit stage de formation avant d'acheter la maison.
C'est
à la limite de la plaisanterie,
c'est la bonne utilisation.
C'est presque une question de culture, quoi, culture de l'énergie.
Oui,
quoi.
Oui.
Il faut avoir en tête présent l'économie de l'énergie.
Mais pourtant, on peut penser que les gens qui ont envie d'acheter cette maison, ils ont déjà un peu l'esprit de, j'ose pas dire écolo, mais
oui,
avoir envie de
Mais il ne faut pas que ça se limite à une toute petite fraction de la population, ce genre de bâtiment. Si ça doit se développer, il faut justement donner l'envie au maximum de... Et comment donner l'envie autrement qu'en expliquant, qu'en faisant comprendre.
C'est quand même un surcoût actuellement.
Oui, c'est un surcoût.
C'est plus 10%, j'avais entendu, il me semble, c'est pas ça?
Oui, au moins 10%. Mais bon, là aussi, ça vaut le coup. C'est un investissement sur des économies qu'on va faire après pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et plus le prix de l'énergie va augmenter.
Voilà, avec un coût de l'énergie qu'on ne connaît pas dans 10 ans. Donc
Oui, plus on fera d'économies quand le prix de l'énergie augmentera. Quoi. Donc, d'une certaine façon, ça vaut le coup. Mais en même temps, ce n'est pas automatique. Ça dépend comment on y vit.
Le mode de vie, on revient encore là-dessus. Hein. On en parlait tout à l'heure quand Alain détaillait comment il avait pu réduire sa consommation électrique dans la maison. Le fait d'utiliser différemment un appareil peut donner des résultats qui vont correspondre à une grande économie d'énergie derrière. Le choix de l'appareil. Pourquoi acheter un... Tiens, je parlais j'ai eu l'idée tout à l'heure, pendant que tu parlais du ballon d'eau chaude, à dire qu'un cumulus électrique, ce n'était pas forcément une aberration si on allait produire de l'électricité photovoltaïque ou éolienne. C'est aussi un moyen de stocker. Pendant qu'on aura un surplus de production, eh ben on va chauffer l'eau. Et puis cette eau chaude-là, 300 litres, voire plus, on va la garder sous le coude. Et à un autre moment, quand la production électrique va être plus faible, eh ben on évitera de... On pourra rogner sur la consommation électrique et puis aller puiser l'eau chaude toute prête qui sera
stockée. On ne peut pas la conserver sous le coude trop longtemps non plus. Hein.
Pas trop longtemps, non, mais...
Non, parce qu'on se
et puis
oui.
Et puis un ballon d'eau chaude, ça s'isole, ça se surisole. Là aussi, d'un produit à l'autre, il y a une grosse variation de ce qui s'appelle la constante de refroidissement, je crois. Enfin bref, de l'énergie qui est nécessaire à maintenir en température le ballon pendant 24 heures. Quoi.
Alors, on avait fait le chauffage, on a vu tout ce qui peut faire fonctionner nos appareils.
Et puis, il y a tous les petits appareils énergivores. On en a déjà parlé dans des émissions précédentes. Hein, toutes les box, les appareils en veille, les multi-écrans dans tous les coins, etc. Ça a complètement explosé. Hein. On fait attention, par exemple, sur le frigo, parce qu'on va faire attention à ce qu'il soit classé dans les A, avec autant de plus que possible à côté du A. Et puis, dans le même temps, il y a 5 ou 6 appareils qui sont alimentés en permanence.
Et qu'on ne peut pas couper.
Et qu'on peut éventuellement pas couper. Ouais.
Oui, mais même, je ne comprends pas ça. Enfin, je ne comprends pas. Non.
Il y a des moyens quand même de limiter ces dégâts-là chez soi. Quoi, hein.
C'est la rampe de prise, tout bêtement.
Sur mon bureau, j'ai une rampe de prise électrique avec un interrupteur. Mmh. Dessus, il y a l'écran de l'ordinateur, l'unité centrale, il y a la lampe de bureau, il y a le chargeur pour mon téléphone, etc. Quoi. Il y a différentes choses dessus. Et les deux imprimantes, une imprimante noir et blanc et une imprimante couleur. Et lorsque je quitte mon bureau, j'éteins l'ordinateur proprement, et puis pour tout le reste, je bascule l'interrupteur de la rampe de prise.
D'accord.
Pareil pour la télévision. Mmh. Télévision.
Magnétoscope.
Décodeur TNT. Lecteur de DVD. Ouais.
Tout ce qui est vidéo, Wi-Fi, etc., peut être alimenté de la même façon. Quand on ne s'en sert pas, il n'y a pas besoin d'alimenter l'éveil.
Oui. Bah, vous en consommez des trucs, là, quand même.
Ça en fait des rampes de prise. Et à chaque fois, l'interrupteur de la rampe de prise, il est allumé, en plus.
J'ai une grande consommation supplémentaire. J'ai une grande rampe de prise générale qui s'appelle disjoncteur tous les soirs.
C'est une rampe de lancement.
Et le lendemain matin, je me lève, je rappuie sur le...
Et tout démarre.
Et tout redémarre, voilà.
On rigole, mais moi, j'ai certains collègues, c'est vrai qu'ils disjonctent dans certaines chambres parce que les gamins, ils n'y arrêtent pas et ils ne sont pas capables de s'arrêter de consommer d'après leurs appareils. Donc, ils disjonctent. Plus d'électricité.
Ça, c'est une plaisanterie que je faisais du temps où j'enseignais l'informatique. Parce que quand j'enseignais l'informatique, je disais à mes étudiants, faites attention, sauvegardez régulièrement votre boulot, parce que s'il y a une panne de courant, vous allez perdre tout ce que vous avez fait depuis la dernière sauvegarde. Donc sauvegardez régulièrement. En fait, j'aurais pissé dans un violon, ça aurait eu le même effet. Mmh. Et donc, à la première interrogation écrite suivante, je faisais une panne de courant. Mmh. Et à ce moment-là, ils comprenaient. Quoi. Ouais. Mais bon, c'est...
Maintenant, on a un simulateur, on n'est plus obligé de disjoncter.
Oui, mais...
C'était quand même plus efficace, là, hein. Parle mal. Alors, les énergies, est-ce qu'on peut parler d'énergie renouvelable? Ben voilà, tout le monde pleure.
Ouais. Ils ont l'air de bien se marrer quand même.
En fait, la notion de renouvelable, elle est un peu ambiguë. C'est-à-dire que
fabriqué, en fait, ça, oui.
Le soleil produit une énergie, mais cette énergie n'est pas renouvelée. Il continue d'en produire.
Voilà.
Ce qui est important, c'est qu'il va faire ça encore pendant 2 ou 3 milliards d'années.
Il va en produire encore longtemps après nous. Donc,
oui, donc longtemps après. Il n'y a aucune espèce vivante qui a duré aussi longtemps. Donc il est même vraisemblable qu'il n'y aura plus d'hommes à cette époque-là. Et donc... C'est ça, la notion de renouvelable, c'est pas vraiment renouvelable. C'est le soleil qui va produire pendant 3 milliards d'années. Et donc, tant qu'on ponctionne sur ce stock-là, dans des proportions raisonnables, on peut durer, l'espèce humaine peut durer tranquillement. C'est ça le renouvelable. Alors que le stock, l'énergie, le soleil en stock, celui qui est dans le sous-sol, sous forme de pétrole, de charbon, de gaz de schiste, etc., ça, c'est beaucoup plus fini.
Il ne reviendra pas. Il reviendra dans quelques centaines de millions d'années. Il n'y aura plus d'humanité. S'il reste de la vie à la surface de la Terre, il n'y aura de toute façon plus d'humanité.
Oui. On ne peut pas en refabriquer naturellement. On n'a pas le temps.
Vous voyez que j'avais bien raison de pleurer. Bon, donc, pas d'énergie renouvelable au sens initial du mot.
Renouvelable, ça veut dire consommer.
Ça sera renouvelable, mais dans 100 millions d'années.
Consommer ce qui est produit à l'instant T, quoi. Pas consommer ce qui a été produit il y a très très longtemps. Et il faudrait d'ailleurs pas oublier d'en laisser un petit peu à nos descendants de ce qu'il y a sous nos pieds. Parce que si... C'est facile de dire, on a encore pour 150, selon les bouquins, ans de...
Mais on en trouve d'autres, là, les fameux gaz de schiste.
Justement, si un jour il est utilisé, ce qui fait bien peur, autant laisser les générations futures l'utiliser.
On a déjà
consommé une très très grosse partie des métaux inclus dans l'écorce terrestre. On est en train de finir un certain nombre de produits disponibles. Et puis il n'y en a pas d'autres. Hein. C'est la Terre, pour voir ça comme un vaisseau spatial. Pour l'instant, on ne va pas chercher ailleurs. Et quand on aura consommé ce qui est là, qu'est-ce qui va devenir? C'est que nos décharges ex-municipales et autres vont devenir les mines du futur. Quoi. Il va falloir aller gratter dans les sacs poubelles pour retrouver du métal, pour retrouver des produits, des matériaux. Je ne parle même plus d'énergie.
Je vais me faire l'avocat du diable. Le discours actuel, c'est de dire, vous inquiétez pas, on va quand même en trouver des sources d'énergie. La preuve, le gaz de schiste. Bon, les USA sont en train de les utiliser comme il faut.
Oui, mais ils sont en train de vider une poche de la même façon qu'on a vidé une poche de pétrole.
Et en attendant, ils refourguent leur charbon en cassant les prix et compagnie. Le charbon est encore un peu utilisé pour réutiliser, même, je dirais, dans certains pays.
Oui. Comme énergie d'appoint pour pallier l'intermittence des énergies renouvelables. Mais bon, ça devra disparaître, ça, à terme.
C'est pour faire une transition avec autre chose, quoi.
Oui. Mais si vous voulez, il y a des choses qu'on ignore et qui sont énormes. Si vous prenez en France les industries productrices de CO2, vous prenez les industries les plus productrices de CO2 en France, et le CO2, c'est une catastrophe pour le climat. La première, c'est ArcelorMittal, et la deuxième, c'est EDF. La deuxième industrie française qui produit le plus de CO2.
Alors que 80% de son électricité...
Alors que le discours d'EDF consiste à dire... On fait l'électricité nucléaire et décarbonée.
Parce que ça ne produit pas de CO2.
En fait, c'est complètement faux. À cause, justement, de tous les chauffages électriques qu'ils ont installés et qu'ils ont fait installer. Et donc, il faut, en hiver, quand il fait très froid, il faut remettre en route des centrales au charbon et au fioul lourd pour assurer la jonction.
Courte présentation, l'usine marée motrice de la Rance. C'est l'utilisation de... Du naturel, entre guillemets.
C'est encore de l'énergie solaire un petit peu transformée. Quand même.
Non, mais l'usine marée motrice de la Rance, ça ne peut pas se généraliser.
Oui, d'abord.
Parce que dans les estuaires, c'est là que se reproduisent beaucoup d'espèces piscicoles. Et donc, si vous voulez, déjà que la mer est désertée par beaucoup de poissons parce qu'on a surpêché, si on se met à bousiller des estuaires, ça va être catastrophique.
Non, et puis il n'y a pas énormément de...
Il y a peu de
sites au niveau mondial où ça pourrait être développé. Il me semble qu'au niveau européen, c'est 3. C'est pas généralisé.
Oui, bon, c'était une belle expérience, quoi. C'est tout. C'était joli.
Les barrages hydroélectriques, ça, donc c'est...
L'hydroélectricité, c'est pas négligeable. Et ça a été une part importante de l'électricité produite en France jusqu'à ce qu'on surconsomme de l'électricité. C'est une part pas négligeable dans certains pays où il y a peu de population, beaucoup de montagnes, beaucoup d'eau. Faire du chauffage électrique dans le nord du Canada, par exemple, c'est pas une aberration pour moi. Il y a énormément d'hydroélectricité. Le rendement est bon, globalement.
Bon. Est-ce qu'on a fait un peu le tour de notre sujet ? Eh bien, merci à vous, Radio Hollenspiegel.
Deux petites annonces.
Oui, Radio Hollenspiegel vous remercie d'avoir évoqué dans le cri du Kevitt les énergies à la maison. Et pour clore notre intervention au micro, deux petites annonces avec samedi 8 février, donc ce samedi, une marche citoyenne, on parle comme ça maintenant, départ place Charles Valentin, c'est-à-dire à la mairie de Dunkerque, avec pour thème stop au projet Arena, dont on entend beaucoup parler dans le Dunkerquois et avec les Dunkerquois. Donc marche citoyenne samedi 8 février à partir de 10h45, place de la mairie à Dunkerque. Et puis avant cela, ce jeudi 6 février à 18h30 au cinéma Le Varlin, il y a une rencontre débat avec un film qui s'appelle Toxic Planet, organisé par l'Université Populaire de Grande-Synthe. Merci de nous avoir écoutés, merci à vous tous, merci Lydie, Didier et notre invité Alain Vaillant. Et prochaine émission début avril, c'était Le Cri du Kévit.
Au revoir Michel, au revoir tout le monde.
Bonsoir.
Salut Lydie.